Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon week-end. Mon premier invité ce matin, c'est François Girolf, économiste à l'OFCE. L'OFCE vient en effet de réviser à la baisse les prévisions de croissance du gouvernement. Il va nous expliquer pourquoi. Je recevrai ensuite Emmanuel Hirsch sur le budget supplémentaire qui vient d'être annoncé par la ministre de la Santé en faveur des soins palliatifs. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une alternative ou d'une caution à l'aide médicale à mourir? Il va nous le dire. Et l'on terminera l'émission avec Samuel Blumenfeld. Il est critique de cinéma et il sort un livre où il compare deux acteurs que tout oppose, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo.
Europe 1.
François Girolf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui vient de réviser à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de 0,8 à 0,5%, au moment même où Bruno Le Maire, toujours optimiste, tablait lui sur 1% de croissance en 2024. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, en grande partie, c'est la révision du déficit public qui a fait beaucoup couler d'encre et parler cette semaine, qui est passé de 4,9% du PIB à 5,5%. Donc, une très mauvaise surprise sur ce front-là. Ce qui veut dire que le gouvernement va devoir faire des économies budgétaires plus vite que prévu. Et ces économies budgétaires vont être très mauvaises pour la croissance l'an prochain, selon qu'il va faire effectivement 10 milliards d'euros, 20 milliards d'euros, peut-être même 50 milliards d'euros si on écoute le premier président de la Cour des comptes.
D'économie,
exactement. Budgétaire, on va avoir un effet significatif sur l'activité économique.
C'est
et
mécanique,
donc...
au fond. S'il y a moins de dépenses publiques, mécaniquement, il y aura moins de croissance.
Alors moi, je crois beaucoup, effectivement, à cet effet-là, l'effet du multiplicateur, comme on dit budgétaire, multiplicateur keynésien. Mais c'est vrai que c'est un sujet de débat entre économistes. C'est même un sujet très important en macroéconomie, de savoir quelle est l'ampleur, quelle est la taille de ce multiplicateur budgétaire. Les économistes, comme d'habitude, sont pas d'accord sur ce sujet. Mais la plupart des économistes, y compris le FMI aujourd'hui, dit que le multiplicateur budgétaire est quand même relativement important et que donc, quand on baisse les dépenses publiques, on a une baisse du PIB.
On savait que l'économie, c'est compliqué. Hein. Dès qu'on bouge quelque chose, ça peut avoir des conséquences qu'on avait prévues ou pas prévues. Mais là, vous êtes en train de nous dire que si on fait des économies de 20 milliards d'euros par an, par exemple, c'est ce qui est prévu par le gouvernement, ça va plomber la croissance et donc augmenter le déficit.
Alors ça va quand même diminuer le déficit dans la mesure où on va faire des économies budgétaires, mais de l'autre côté, effectivement, comme le PIB va diminuer, on va avoir moins de rentrées fiscales et donc le déficit va diminuer de moins que les économies que vous allez faire. Si le multiplicateur budgétaire, comme on dit, c'est-à-dire l'effet sur le PIB d'une baisse des dépenses publiques est très très important, on peut même avoir, comme on a vu en Grèce entre 2010 et 2015, une augmentation du déficit public alors même qu'on essaye de faire des économies.
Pour que la croissance redémarre, François Girolf, il faudrait quoi ? Que l'inflation retombe, que la consommation reprenne, que les taux d'intérêt diminuent, que les investissements augmentent, que
tout
le chômage baisse. Et on en est où pour le moment ?
Tout ça en même temps serait absolument formidable. Alors il y a des choses qui dépendent de nous. Hein. La baisse des taux de la Banque Centrale Européenne, c'est quelque chose que la Banque Centrale Européenne pourrait décider.
Mais qu'elle ne décide pas.
Qu'elle n'a pas décidé, jeudi. Alors effectivement, la question c'est est-ce qu'elle va baisser ses taux en juin puisque c'est la prochaine réunion de politique monétaire. Je l'espère très fortement et je pense qu'un certain nombre d'économistes et aussi le gouvernement français l'espèrent très fortement. Ensuite, il y a effectivement la question du chômage, du pouvoir d'achat. Est-ce que les salaires vont finir par rattraper les prix ? Ça va dépendre beaucoup de ça, donc ça va beaucoup impacter le revenu des ménages. Ensuite, on va voir effectivement est-ce que le secteur de l'immobilier va remonter à la suite de la baisse des taux qui va commencer. Ça aiderait aussi beaucoup le PIB. La construction, on sait, à ce moment-là, est dans une très mauvaise passe et pèse de manière très négative sur le PIB français. Ça va dépendre de tout ça en même temps. Et puis, il y a quand même une singularité française actuellement qui est le taux d'épargne, qui a un taux très élevé. Donc, on parle sans cesse du déficit public à un niveau très important. Faut pas oublier qu'il y a l'épargne privée, très importante. Et en fait, la France est un peu championne dans ce domaine-là. Et elle est championne d'autant plus depuis 2018, où le taux d'épargne a augmenté, en fait, de 4 points. Il est passé de 14% à 18% du revenu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a plutôt tendance à mettre l'accent sur les mauvaises nouvelles.
Attendez, c'est une bonne nouvelle. Bon, les Français ont amassé 240 milliards d'euros en 4 ans. Ouais. Mais comment les inciter à en dépenser une partie? Parce que s'ils les gardent, ça n'a aucune influence sur l'économie.
Mais à ce moment-là, à partir du moment où vous dites ça, c'est que vous êtes comme moi, un keynésien. C'est-à-dire que vous pensez que le problème dans l'économie, c'est qu'il n'y a pas assez de consommation.
Ah non, moi je disais rien. Je fais allusion à ce que vous disiez.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que le taux d'épargne en hausse fait que c'est plutôt une mauvaise chose pour l'économie. Mais après, pour ceux qui pensent que le taux d'épargne de l'État a baissé énormément, ce qu'ils mettent jamais en regard de ça, du 5,5% de déficit, c'est qu'en face, le taux d'épargne privé a augmenté énormément. Et donc, il faut s'inquiéter. Normalement, ce qui nous intéresse, c'est le taux d'épargne complet de la France, c'est-à-dire privé plus public. Et donc, c'est vrai que le taux d'épargne public est en baisse, mais le taux d'épargne privé est en forte hausse, et même il plus que compense le déficit public. Donc pour ceux qui sont inquiets du fait que la France vit au-dessus de ses moyens, par exemple, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, en fait, c'est pas vraiment vrai, c'est-à-dire que depuis 2018, il y a une hausse du taux d'épargne de 4 points, dont, à mon avis, on devrait parler un petit peu plus.
Mais ceux qui en parlent parmi les économistes sont généralement ceux qui se disent « il faudrait imposer davantage les Français pour que l'argent qu'ils épargnent revienne dans le circuit. »
Oui, mais si vous faites ça, vous allez détruire autant d'épargne privée que vous allez réduire le déficit public. Et donc finalement, l'effet sur l'économie, quelque chose comme ça, ne sera pas très très important. En revanche, si vous commencez à taxer des gens qui consomment, là, vous allez avoir un effet négatif sur l'activité. Donc effectivement, si on taxe, on va dire, les plus riches ou les plus hauts revenus, eux, c'est des gens qui épargnent une très grande partie de leurs revenus, notamment quand ils ont... Donc si vous leur donnez 1 euro de plus, en général, ils vont l'épargner entièrement, puisque voilà, ça les intéresse même pas. Donc effectivement, ça, je pense que ça va pas avoir énormément d'impact sur l'activité économique. Ce qu'il y a, c'est que le gouvernement n'a pas envie de faire ça, puisque c'est un signal très important pour lui envoyé à l'attractivité de la France depuis 2017. Et donc, apparemment, il n'a pas envie de revenir sur ces baisses d'impôts.
Non, et
donc,
Emmanuel Macron l'a redit, hein, on n'augmentera pas les impôts. On fait une pause, François Girolf, on y revient tout de suite après.
9h, 10h.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1. Europe 1.
9h, 10h. C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec François Girolf, économiste à l'OFCE. L'OFCE qui vient de réviser à la baisse la prévision de croissance pour 2024 du gouvernement et la sienne par la même occasion, hein, puisque vous aviez prévu 0,8% de croissance en 2024. Finalement, vous êtes retombé à 0,5%. Bruno Le Maire, lui, table sur 1%. Alors, on le disait, pour que la croissance redémarre, il faudrait que l'inflation retombe, que la consommation reprenne, que les taux d'intérêt diminuent, que les investissements augmentent, que le chômage baisse. Il faudrait aussi que les exportations se redressent, non ?
Oui, c'est vrai. Donc, du point de vue des exportations, ça fait un moment que la France fait figure de lanterne noire, un petit peu en Europe notamment. On a beaucoup de mal à exporter. Et c'est vrai qu'on a eu un discours assez optimiste du gouvernement sur la réindustrialisation, que vous avez peut-être entendu. Mais en réalité, dans les chiffres, on a du mal à voir cette réindustrialisation pour le moment. Les parts de marché de la France continuent à baisser, en fait, à l'exportation. Et donc, ça reste une vraie difficulté. En revanche, là où les entreprises et les multinationales françaises sont un peu meilleures, c'est dans les investissements à l'étranger. C'est vrai que là, on arrive à rapatrier des revenus, notamment à l'étranger. Donc, on arrive à produire à l'étranger pour les marchés étrangers. En revanche, à produire en France pour les marchés étrangers, ça, on a de plus en plus de mal. Et effectivement, je pense que c'est un sujet de progrès pour l'économie française.
Beaucoup de gens sont dans la nostalgie de Georges Pompidou, à la fois Premier ministre, mais surtout Président de la République. Et moi-même, je l'adore. Hein. Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là... Si on reprend le début des années 70, la France, l'inflation était basse, la consommation était haute, les investissements augmentaient, les taux d'intérêt diminuaient, le chômage baissait, les exportations se redressaient, tout était formidable, mais on a oublié que les Français étaient beaucoup plus pauvres qu'aujourd'hui.
Ah oui, non, faut pas tomber dans une nostalgie outre mesure. Enfin, je pense qu'effectivement, le pouvoir d'achat a beaucoup augmenté depuis ces années-là. La question, c'est plus de savoir si depuis les années 2000 ou même 1980, en gros, depuis le tournant de la rigueur, là, les hausses de pouvoir d'achat sont faites beaucoup moins rapides. C'est vrai que les années 60, 70 sont des moments où, en fait, le pouvoir d'achat augmentait de 5% par an. Depuis lors, ça n'augmente plus que de 1%, voire moins par an.
Mais tout était plus cher aussi.
Tout était plus cher,
les produits agricoles notamment. Le litre d'essence était plus cher, voilà. Sous Georges Pompidou qu'aujourd'hui.
Ah oui, non, c'est évident, les produits primaires, enfin les produits agricoles. Alors après, ça veut dire aussi que les agriculteurs, ils gagnaient mieux leur vie, par exemple. Enfin, c'est-à-dire, ça n'avait pas que des inconvénients. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, parfois, que notre pouvoir d'achat, il s'est fait aussi au détriment d'un certain nombre de secteurs, de travailleurs, donc c'est le cas dans le secteur agricole, et aussi dans le secteur industriel.
Et on paye moins cher notre baguette de pain, donc forcément...
Il y a quelqu'un qui gagne moins à un moment donné,
évidemment.
Exactement.
Voilà. L'OFCE, dont vous êtes le représentant aujourd'hui, hein, François Girol,
grosse responsabilité,
s'attend à beaucoup de faillites d'entreprises en 2024. 68 000 entreprises, hein, je crois me souvenir, devraient fermer leurs portes selon l'OFCE. Ça veut dire à peu près quoi? 100 000 emplois supprimés?
Oui, et ça c'est lié en fait au remboursement progressif des prêts garantis par l'État qui a été mis en place au moment du Covid. Et effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises zombies, on va dire, c'est-à-dire qui ont été laissées à flot à ce moment-là, qui ont été beaucoup aidées et qui auraient dû faire faillite en temps normal, à qui on a prêté de l'argent et qui vont avoir du mal de plus en plus à rembourser. Actuellement, si vous excluez les micro-entreprises, on voit que les faillites, effectivement, sont à un niveau supérieur à celui qu'elles avaient pendant la crise financière. Donc il y a effectivement un effet de rattrapage, mais la question c'est de savoir, il y a un petit peu deux écoles, il y a des gens qui pensent que c'est normal que le taux de faillite soit très important, puis d'autres qui pensent que c'est beaucoup plus inquiétant que ça, que c'est lié à la hausse des prix de l'électricité notamment sur les très petites entreprises et les moyennes et petites entreprises qui sont en grande difficulté. Donc je pense qu'il faut faire très attention, il y a beaucoup de sujets d'inquiétude dans l'économie française et les différences d'entreprises en font partie.
Mais il y a plus que des sujets d'inquiétude, on dirait que tous les signaux sont au rouge.
Ouais.
Tous les signaux, parce qu'on n'a pas parlé du taux de prélèvement obligatoire, mais on atteint des records.
Non, je suis très inquiet.
Je suis
très inquiet. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a l'impression de s'en rendre compte d'un coup d'un seul, alors qu'en fait, je pense qu'il y a un certain nombre de signaux négatifs depuis au moins septembre, même depuis juin dernier. En réalité, le gouvernement était très optimiste. Bruno Le Maire, notamment, avait eu un discours très très optimiste en septembre où il disait contre les Cassandres, qui avait dit que l'économie française irait forcément mal, tout va bien, regardez, et là on est en train de se rendre compte progressivement que effectivement ça va être très difficile, et d'autant plus qu'en fait ces difficultés budgétaires, je pense qu'il y a beaucoup de dettes hors bilan dont on parle pas, par exemple les fonctionnaires n'ont pas été revalorisés à hauteur de l'inflation, ils ont été revalorisés seulement de 5,1% en 3 ans, alors que l'inflation est de l'ordre de 15%, donc vous voyez, il y a une formidable baisse de pouvoir d'achat en fait des fonctionnaires sous cette période-là, et en fait le problème, c'est que du coup, dans les services de santé, dans tout un tas de services, on a du mal à recruter. Et ça veut dire que le gouvernement va éventuellement devoir faire un geste à l'égard de plein de professions qui jusqu'ici ont eu moins que ce qu'ils auraient pu attendre. Et donc, non seulement le déficit est très important, mais je pense que les demandes sur le gouvernement vont se faire de plus en plus pressantes pour augmenter les dépenses. Et donc, effectivement, c'est très inquiétant, sans parler de la guerre en Europe, qui va potentiellement demander des efforts de défense supplémentaires, sans parler de la transition écologique, qui va demander énormément d'argent dans les années qui viennent. Et donc, effectivement, à un moment où on parle d'un déficit budgétaire extrêmement important, on se demande comment on va faire pour financer ça.
Merci pour toutes ces bonnes nouvelles, François Girolf. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE.
Merci à vous.
Et l'on a maintenant rendez-vous avec Emmanuel Hirsch, il est professeur d'éthique médicale.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, a annoncé que 100 millions d'euros seront investis chaque année dans les soins palliatifs jusqu'en 2034. Cela fait plus d'un milliard supplémentaire et c'est le deuxième volet du projet de loi sur la fin de vie qui doit autoriser, je le rappelle, le suicide assisté et l'euthanasie sous condition, même si ces mots ne sont pas utilisés par le gouvernement. Professeur Emmanuel Hirsch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes l'auteur de « Soigner par la mort, est-il encore un soin ?» aux éditions du CERF. Catherine Vautrin a déclaré que quand quelqu'un demandera une aide à mourir, la première chose qu'on lui proposera, ce seront les soins palliatifs. Est-ce que cela vous rassure ?
D'abord, j'ai pas besoin d'être rassuré. Je vais être rassuré probablement par les parlementaires qui vont se pencher sur ce projet de loi. Ce qui m'a rassuré ces jours-ci, c'est l'avis du Conseil d'État sur ce projet de loi. Le Conseil d'État s'était prononcé à deux reprises. en 2018, le 28 juin 2018, et puis le 4 avril dernier. Il disait en 2018 qu'il ne voyait pas vraiment d'intérêt à ce qu'il y ait une évolution législative. Deuxième point, qu'une législation dans ce domaine touchant à des situations singulières, c'était quand même très délicat à mettre en œuvre. Ça, c'était la première partie. Et puis, ce qui est plus proche de la réalité d'aujourd'hui, il dit que le gouvernement est en droit, effectivement, de faire évoluer la législation de 2016, avec néanmoins des précisions à apporter. Et on ne voit pas dans l'intitulé actuel de la loi, qui est « Accompagnons la personne et fin de vie », qu'il y a à la fois les soins palliatifs. Donc, si on suit le Conseil d'État dans sa préconisation, la loi devrait s'appeler « Loi relative aux soins palliatifs ». Et à l'aide, alors on ne dira pas à l'aide à mourir, mais à l'aide active à l'euthanasie et au suicide assisté. Donc ce qui est important quand Catherine Vautrin et toutes les personnes aujourd'hui, y compris les personnes de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, sont tous favorables à ce que tout citoyen, toute citoyenne ait accès aux soins palliatifs aujourd'hui.
Ce qui n'était pas le cas en France, ce qui n'est toujours pas d'ailleurs.
C'est toujours, la première loi, c'est 9 juin 1999. Effectivement, depuis, on aurait pu mettre en place les soins palliatifs. Alors, première question, est-ce qu'on a besoin de soins palliatifs partout? On a surtout besoin d'une culture, de l'accompagnement. Peut-être que davantage de structures et de lits. D'autre part, nous fixer comme objectif 10 ans, hein, puisque le plan se développe sur 10 ans, ça voulait dire on attendra dans 10 ans, c'est-à-dire que tout le monde puisse accéder aux soins palliatifs pour que la loi, la nouvelle loi, soit effective avec un accès au suicide assisté et à l'euthanasie. Donc je pense qu'il est très intéressant de rendre hommage aux soins palliatifs, de leur permettre d'être reconnus. Mais ce qui est aujourd'hui très très délicat dans l'approche du gouvernement, c'est de confondre, et c'est ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, l'accompagnement par les soins palliatifs, c'est-à-dire accompagnement de la personne en relation, accompagnement avec une qualité de vie, un projet de vie jusqu'au terme de l'existence. Et puis, une autre option, c'est suicide assisté ou euthanasie, c'est-à-dire abréger une existence. Et là se pose, pour les professionnels, il n'y a pas que des professionnels dans les soins palliatifs, il y a aussi beaucoup d'associations, se pose la question, est-ce que c'est vraiment la fonction du médecin d'aller d'un côté sur les soins palliatifs et de l'autre côté sur le suicide assisté et l'euthanasie? Et c'était d'ailleurs ce que le Conseil d'État aussi observait en 2018. C'est une espèce de confusion. Et autant je suis favorable à une approche d'exception, c'est-à-dire qu'effectivement, certaines situations peut-être ne sont pas aujourd'hui appréhendées comme il conviendrait de le faire dans la loi de 2016.
Ça conviendrait qu'il y ait une aide médicale à mourir dans ces exceptions?
Non, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas mettre sous la table le mot suicide assisté et euthanasie. Toutes les législations qui nous ont précédés, hein, puisqu'on se réfère au moins, disent explicitement les choses. Donc je pense qu'il faut aller franchement. Si effectivement, et beaucoup d'ailleurs, non pas en termes de tribune, mais sur le terrain s'expriment, certains médecins disent aller jusqu'au bout du soin, accompagner une personne jusqu'au terme de son existence, c'est pratiquer l'acte létal lorsqu'il n'y a plus rien d'autre à faire, ou lorsqu'on sent que dans notre intime conviction, c'est l'engagement qu'on doit avoir pour cette personne. Pour moi, j'arrive à le comprendre, j'arrive à l'admettre, c'est une affaire au cas par cas. Est-ce qu'il faut légiférer sur cette question? Alors ceux qui disent qu'il faut légiférer, ils disent que ça se pratique d'une manière clandestine. Mais soyons rassurés, dans les pays qui ont légiféré, ça se pratique encore d'une manière clandestine. Donc la vraie question, c'est maintenant les parlementaires qui vont la prendre en compte, c'est quel type de critères on va mettre en place pour limiter ce dont on sait qu'à terme ça ne sera pas limitatif, et de quelle manière un médecin considérera, donc c'est toute la question de la déontologie médicale, que l'œuvre du médecin, aller jusqu'au bout du soin, et c'est là où moi je mets une petite frontière dans la définition du soin, c'est également aider la personne à mourir. Parce que ce n'est pas l'aide à mourir uniquement l'accompagnement, c'est véritablement pratiquer un acte létal avec une intention, c'est que la personne meure. Et vous voyez, ce qui a été l'ambiguïté, c'était la loi du 2 février 2016, où on parlait de sédation profonde et continue jusqu'au décès. La personne mourait parce que physiologiquement, le corps ne résistait plus. Mais il n'y avait pas d'intention de donner la mort. Là, il y a une intentionnalité. Et rappelez-vous aussi d'une loi importante, c'est la loi Leonetti du 22 avril 2005, droit des malades et fin de vie. Jean Leonetti, dans ce loi, disait « Si pour limiter une souffrance, on limite la vie de la personne sans l'intention de tuer la personne, on a le droit de le faire. » C'est pour dire que tout est sur la table. Ça fait maintenant 40 ans qu'on discute de ce sujet. On va avancer. Il faudra voir ensuite les conséquences. Tout ça pour répondre à votre première question. Catherine Vautrin avait été juste jusqu'au bout, elle aurait dit une fois qu'on aura effectivement accès d'un point de vue universel aux soins palliatifs, on légiférera. C'est pas ce qui va se passer. Et donc il y a une période qui est à peu près 10 ans, puisque le plan décennal qui va être mis en œuvre est sur 10 ans. Et je pense pas que ce soit qu'une question d'argent. Un dernier point, parce que je sais que vous êtes sensible à ces questions, je pense que c'est pas uniquement des réponses médicales dont on a besoin. C'est des réponses sociétales. Et le grand défi, c'est qu'on voit dans les pays qui ont légiféré, qui ont évolué dans leur législation, c'est-à-dire qui ont appliqué à d'autres cadres que ceux qui étaient au départ restrictifs, une personne très âgée, qui souffre de la solitude, qui souffre existentiellement. Une personne atteinte de mélancolie, atteinte de troubles psychiques. Il y a tout un ensemble de personnes dont on se demandera à un moment donné, comme les législations qui nous ont précédées, mais au nom de quoi, si elles attendent de la société cette dernière compassion que de les aider à mourir, on ne le fera pas. Et avec une distinction entre le suicide, c'est un acte personnel, autonome, et l'euthanasie, qui est quelque chose de compliqué. Donc, vous voyez, on rentre dans un moment intéressant. Il y a eu une très très belle concertation, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, depuis que le président de la République a souhaité, en, le 13 septembre 2022, nous engager. Il y a eu une convention citoyenne, enfin, il y a eu du débat. On ne peut pas dire que le débat n'a pas eu lieu. Maintenant, il faudra que le Parlement se prononce aussi en conscience et que, à mon avis, les soins palliatifs ne soient pas assimilés à la même loi. En tous les cas, s'ils le sont, qui est vraiment dans l'intitulé, soins palliatifs, hein, c'est ce que dit le Conseil d'État, et puis assistance à mourir sous forme de suicide assisté ou d'euthanasie.
Mais Emmanuel Hirsch, justement parce que ça s'est développé aux marges des pratiques médicales conventionnelles et que on l'a dit, en France, les soins palliatifs n'ont jamais été très bien lotis. C'est quoi exactement les soins palliatifs ?
Les soins palliatifs, ils naissent en France dans les années 1980, d'ailleurs au même moment que le sida. Et ils naissent à un moment où beaucoup de médecins pratiquaient ce qu'on appelle la pose du cocktail lithique. C'est-à-dire sans le dire à la personne, quand une personne souffrait, on n'avait pas aussi toutes ces ressources au niveau des antalgiques, on posait le cocktail lithique. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement provocateur. Et d'ailleurs, à cette époque, il y a aussi l'Association pour le droit de mourir dans la dignité qui dit, regardez en réanimation ces survies indignes. Donc il y a tout un ensemble d'éléments, de facteurs qui ont fait que naissent les soins palliatifs en France, selon le modèle anglo-saxon, ce qu'on appelle les hospices. Par exemple, en Angleterre, il y a 200 à 300 maisons qui accueillent des personnes. Vous savez que dans la nouvelle loi, il y aura des lieux dédiés, des maisons d'accompagnement. Ça, c'est une innovation intéressante. Donc, entre le domicile, si on veut, et l'hôpital, on est dans des contextes très différents. Donc, les soins palliatifs, c'est l'engagement d'accompagner la personne jusqu'au terme de son existence en mobilisant des compétences à la fois technique, pour que la personne ne souffre pas, avec éventuellement la sédation, la personne on l'endort, mais une sédation proportionnée qui permet d'être réversible, donc de maintenir la relation. Et l'objectif, c'est de maintenir la qualité de vie de la personne, non pas d'une manière obstinée, mais le plus longtemps possible et en accord avec elle. Et il s'avère que la pratique des soins palliatifs fait que des personnes qui ne seraient peut-être pas survécu, survivent peut-être plus longtemps, parce qu'elles sont dans un environnement où leur destinée, c'est pas uniquement le moment de la mort, est-ce que on les prolonge ou pas. Elles vivent leur vie, mais encore une fois, d'une manière concertée. C'est ce qui a fait que les soins palliatifs se sont, dès le départ, opposés à l'approche de l'acte létal, en disant ils sont confrontés à des situations complexes, des situations d'une grande difficulté. On n'a pas à s'obstiner, mais on doit, au cas par cas, avoir l'approche la plus juste. Et c'est vrai que toutes les personnes n'ont pas non plus envie d'aller dans les soins palliatifs. Et quand on se représente à titre personnel ce que pourrait être le moment difficile pour soi ou pour un autre, peut-être qu'on pense que l'échappatoire au niveau de notre dignité, au niveau de notre liberté, au niveau de nos valeurs, c'est plutôt d'en terminer assez vite. Donc, ce qui est intéressant au moment où on se parle, c'est en avril 2024, c'est que je pense qu'il n'y a plus d'opposition entre soins palliatifs et puis alternative aide à mourir. Uniquement, il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion dans une législation. Et juste un point qui m'a beaucoup frappé, dans les pays qui nous ont précédés, au départ on disait, parce qu'il y a une autre alternative, suicide assisté ou euthanasie. La plupart des pays qui ont mis suicide assisté ou euthanasie, c'est maintenant majoritairement euthanasie. Donc c'est finalement le dilemme, ou en tous les cas l'option, ça sera soins palliatifs ou euthanasie.
Je renvoie à votre livre « Soigner par la mort, est-il encore un soin ?» C'est paru aux éditions du CERF. Merci Emmanuel Hirsch.
Merci Frédéric Tanné.
Et vous vous souvenez peut-être, il fut un temps où on s'amusait à comparer Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. On était soit pour Delon, soit pour Belmondo. Eh bien, un critique de cinéma, Samuel Blumenfeld, en a fait un livre.
Europe 1.
Europe 1. 9h, 10h. C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tanné.
Samuel Blumenfeld, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma au Monde et vous publiez chez Équateur un livre intitulé tout simplement « Delon-Belmondo » dans lequel vous étudiez les deux stars du cinéma français des années 60, 70, 80. Un livre d'autant plus intéressant que vous mettez des mots sur quelque chose que tout le monde a ressenti au cours de ces années-là en les comparant, car on ne pouvait pas s'empêcher de les comparer. Hein. Toute notre vie et toute la leur, on les a comparés.
Absolument, parce que déjà, ils surviennent quasiment au même moment. Hein. C'est-à-dire que vraiment au tout début des années 1960.
En mars 60, exactement.
Voilà, ils naissent en même temps. Ils font d'ailleurs leur début quasiment en même temps, parce qu'ils apparaissent ensemble un petit peu avant, de manière anecdotique, mais leur chemin déjà se croise, mais ils naissent en même temps, Delon avec Plein Soleil et Belmondo avec À bout de souffle. Et au-delà de cette naissance extraordinaire, hors du commun, parce que nous parlons de deux films exceptionnels, mais soudain se dessine en fait un autre phénomène d'emblée, c'est que Plein Soleil est un film de René Clément, c'est un film dit de qualité française, c'est un film héritier donc d'une longue tradition du cinéma français, celle d'un cinéma français cousu main, alors que Belmondo est donc s'impose d'emblée comme la star de la nouvelle vague, dans un cinéma fondé en partie sur l'improvisation. Encore sur l'improvisation dans la nouvelle vague, il y aura beaucoup de choses à dire, parce que c'est une fausse improvisation, mais véritablement, Belmondo devient l'acteur d'une autre école, donc de deux tendances du cinéma français qui ne cesseront de s'opposer. Donc en fait, d'emblée, ils sont différents.
Et tout le monde garde encore aujourd'hui une préférence pour l'un ou pour l'autre. En fait, pendant tout le temps, on a choisi notre camp. On était soit pour Delon, soit pour Belmondo.
Absolument. Absolument. Et alors, on va dire, vous voyez, quand on dit ça, on est soit pour Delon, soit pour Belmondo. Ce qui est intéressant, c'est pas une question de goût. C'est-à-dire que je pense que vous ne choisissez pas Delon ou Belmondo. Je pense que Delon ou Belmondo vous choisissent.
Ça s'impose à nous.
Ça s'impose à vous. C'est-à-dire que tout simplement, face à ces deux stars, parce que le miracle, c'est qu'ils soient nés en même temps. Et en même temps, et curieusement, la naissance de deux grands artistes, enfin un grand artiste, ne naît jamais tout seul. On a Racine et Corneille, plus tard on aura Depardieu et Devers. Et, je veux dire, aux États-Unis, vous avez Steve McQueen et Paul Newman. En fait, on naît par pair. Voilà. C'est comme lorsqu'on a une très très bonne idée, en fait, cette bonne idée, en fait, quelqu'un d'autre l'a en même temps.
Mais vous dites aussi, Samuel Blumenfeld, qu'il n'existe pas deux acteurs aussi dissemblables et qu'ils évoluent dans deux galaxies complètement différentes.
Ah, mais complètement. Si vous voulez, Delon est le héros tragique, Belmondo est le clown. Belmondo est un comédien, Alain Delon est un acteur. Belmondo est issu d'un milieu bourgeois. Alain Delon est issu d'un milieu prolétaire, il porte les douleurs de l'enfance. Ils sont diamétralement opposés. Et quand je dis, c'est Delon ou Belmondo qui vous choisissent, Delon porte si fort les douleurs de l'enfance. Et il les porte à l'écran. Le regard enfantin, juvénile de Delon, qu'il porte durant toute sa carrière adulte, on va dire, le sens avancé de la tragédie, qu'il cultive parce que c'est ainsi qu'il est. Et ce goût chez lui à mourir presque systématiquement dans ses films, opposé à Belmondo, qui lui, justement, vise l'immortalité. D'ailleurs, même lorsqu'il meurt à la fin d'À bout de souffle, c'est sur le ton de la comédie, parce que Belmondo ne peut pas mourir. Donc en fait, Delon vous choisit parce qu'en fait, vous vous reflétez dans les douleurs de la petite enfance. Si votre expérience est différente, vous êtes naturellement du côté de Belmondo.
Vous ajoutez que Delon, c'est l'individu solitaire, alors que Belmondo, c'est le chef de bande, que Delon est toujours vulnérable, alors que Belmondo se veut indestructible, etc., etc. Oui. Mais vous ajoutez également que c'est frappant quand on revoit « Sois belle et tais-toi », le premier film où ils sont apparus ensemble, personne ne s'en souvient, c'est en 1957, mais ils partagent l'écran pour la première fois, et vous dites qu'ils n'arrivent pas à exister ensemble, non pas que l'un soit meilleur ou l'autre moins bon, mais Delon annule Belmondo et inversement. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui est évident. Après vous avoir lu, je n'avais pas trouvé les mots, mais c'est une évidence.
Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est l'eau et l'huile. Ils ne cohabitent pas. Voyez, par exemple, dans, il y a des acteurs qui cohabitent très bien. Je veux dire, Robert Redford et Paul Newman, ça cohabite magnifiquement bien. Ces deux-là n'ont rien à faire ensemble parce qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est d'ailleurs l'un des miracles, hein, c'est le fait que ces deux acteurs arrivés ensemble soient à ce point, soient asymétriques, véritablement. Et donc, ça ne fonctionne pas ensemble, mais quand on voit les films, vous voyez, les films, c'est Borsalino, c'est Une chance sur deux, ce sont de mauvais films, ce sont des films effroyables.
Bon, les gens qui nous écoutent en ont peut-être gardé de très bons souvenirs, mais c'est vrai que sur le plan cinéphilique, c'est vrai que ça n'a... Même Borsalino, ça n'a laissé aucune
c'est
trace.
Pas bon, c'est pas bon, je veux dire, c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas... Vous voulez revoir Delon ou Belmondo, pas là. C'est-à-dire que pas ensemble, en fait, parce que vous n'avez ni l'un ni l'autre.
On voit aussi qu'il y a chez Belmondo quelque chose de l'enfant prodige, alors que il y a une facilité, une décontraction, une légèreté. Alors que chez Delon, c'est le contraire. Hein. Vous dites qu'il a un désir d'ascension sociale avec la douleur impliquée par cette ambition et la difficulté d'exprimer son talent, sachant qu'à tout moment, l'on pourrait lui claquer la porte au nez.
Tout à fait. Regardez les deux films qui les ont révélés. Belmondo fait À bout de souffle, il le fait donc quasi improvisation, on peut dire qu'une moitié des dialogues sont de lui. Enfin de lui, non pas signés de lui, mais je veux dire, voilà, il les sort sans s'en rendre compte. Il n'a aucune conscience du film qu'il tourne.
Non, il pense que ça sortira jamais.
Voilà, et d'ailleurs quand ça sort, il a, le jour de la sortie, il a à peine remarqué que le film est sur les écrans. Le matin même, il est en salle de boxe et, avec Charles Gérard, donc son partenaire éternel, quasi éternel, et lui dit « Ah oui, tiens, j'ai un film qui sort ». Donc il n'a pas conscience de ce qui se joue, comme si de toute façon, les choses allaient se jouer quoi qu'il arrive, qui est un luxe de bourgeois. Tant mieux pour lui, hein, bien sûr. Alors que Delon, le rôle de Delon dans Plein Soleil, d'abord, il le gratte avec les dents. C'est-à-dire qu'il le gratte, je veux dire, il dit au producteur, lors d'une fameuse réunion de préparation, il leur dit, écoutez, vous voulez me faire jouer le fils de milliardaire qui va être assassiné, moi, c'est Ripley ou rien.
C'est-à-dire le jeune qui, lui, n'a pas un rond et qui va prendre sa place.
Donc je vais jouer l'ordure ou rien, et donc l'ordure qui est en l'occurrence le rôle principal. Mais simplement, ce qui se joue là de long, c'est que non seulement il veut jouer le rôle du salaud, mais fondamentalement, il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de gratter sa carrière avec les dents. C'est pas la même chose.
On fait une pause, Samuel Blumenfeld, et on revient à Delon et Belmondo.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec le critique de cinéma Samuel Blumenfeld qui consacre un livre à Delon et Belmondo, qui les compare dans ce livre, comme on l'a fait au fond toute notre vie, sans toujours trouver les mots. Vous dites par exemple que Delon est attiré très tôt par les sujets politiques. Hein. La guerre d'Algérie, il fera deux films, L'Insoumis et Les Centurions, La peine de mort, La rafle du Lviv, c'est Monsieur Klein, l'assassinat de Trotsky, etc., etc. Belmondo, c'est le contraire, lui veut séduire la terre entière, il ne veut surtout emmerder personne. Et c'est deux conceptions de l'existence, là. Et là aussi, c'est ce qui fait qu'on est plutôt avec Belmondo ou plutôt avec Delon.
Absolument. Belmondo veut plaire à tout le monde. Et il plaît à beaucoup de monde. C'est très clair. Il plaît à beaucoup de monde et c'est très bien ainsi. On comprend pourquoi il plaît, parce qu'il a de quoi plaire. Oui, Delon, c'est vraiment tout autre chose. D'ailleurs, quand vous rencontrez Alain Delon, quand vous lui parlez, ça vous est arrivé, Frédéric Taddeï, il y a une phrase qui revient régulièrement. Mais vraiment, j'irais bien presque toutes les 10 minutes, voire toutes les 5 minutes, ça dépend des moments. Et la phrase, c'est « on les emmerde ». On les emmerde. Bon, vous dites comme ça, il y a un côté folklorique. Mais concrètement, la carrière d'Alain Delon consiste à emmerder le monde, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que si vous voulez, en 64, il fait L'Insoumis d'Alain Cavalier, il est producteur. C'est le premier film qu'il produit, c'est un film contre l'OAS. Il incarne un ancien tueur de l'OAS qui jette les armes, au sens qui dit, voilà, je ne peux pas défendre cette cause. 2 ans plus tard, il tourne Les Centurions de Mark Robson, autre film contre la guerre d'Algérie. Un peu plus tard, bien évidemment, il tourne Deux hommes dans la ville. Un excellent film contre la peine de mort avec Jean Gabin, le dernier film qu'il tourne avec Jean Gabin. Et surtout, il tourne en 76 et il le produit avec en partie ses propres deniers. Il n'a rien à gagner dans ce film. Monsieur Klein, le second film à mettre en scène la rafle du Veldiv. Tabou ultime, à savoir l'État français qui a assassiné une partie de ses citoyens. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère, hein? Et je me souviens très bien, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous êtes allé faire? Vous n'aviez rien y gagné sur un plan de carrière. Il m'avait répondu, Sam, je devais le faire. Il y a un surmoi chez Alain Delon, un surmoi artistique et aussi un surmoi politique.
Vous racontez d'ailleurs que ce film a failli se faire avec Belmondo. À l'époque, c'était un projet de Costa-Gavras.
Hein. Absolument, c'était un film qui devait se faire avec Belmondo et c'était quand même un ticket magique. Costa-Gavras était le grand réalisateur de L'Aveu, de Z. Bon, Jean Belmondo, c'était Belmondo. Et puis alors là, c'était une machine à cash, encore plus que Delon. Simplement, bah Delon, ok, scénario, ouais, pourquoi pas, mais il voulait que ce soit drôle. Il trouvait que le film était trop tendu quand même et trop angoissant. Bon, et voilà comment les choses se sont terminées, que les producteurs ont retiré la prise.
Mais Samuel Blumenfeld, après l'échec de La Sirène du Mississippi, de François Truffaut et de Stavisky, d'Alain René, Belmondo ne va plus s'intéresser, vous le dites, à la trace qu'il va laisser dans l'histoire du cinéma. Hein. Il ne fait plus que des films de cascadeurs. Ça va l'amener au sommet d'ailleurs, à des films qui font plus de 5 millions d'entrées.
Frédéric, vous connaissez la phrase de Claude Sautet sur Jean-Paul Belmondo? Claude Sautet qui fait tourner Belmondo dans son premier, dans son véritable premier long métrage, Classe Touriste. Belmondo est admirable. Il n'y a pas d'autre terme. Il est vraiment très bon. Il est merveilleux, quoi. Véritablement, et c'est enthousiasmant, quoi, de découvrir un pareil phénomène. Et Claude Sautet disait, la plupart des cascadeurs rêvent de devenir acteurs. Belmondo, lui, est un acteur qui est devenu cascadeur.
Oui, c'est un peu ça. Mais Delon est resté ambitieux plus longtemps, hein, avec Un amour de Swann de Volker Schlöndorff, ou évidemment avec Notre histoire de Bertrand Blier, ou Nouvelle vague de Jean-Luc Godard. Mais bon, ce sont des échecs commerciaux qu'il a assumés, d'ailleurs. Mais enfin, au fond, on s'aperçoit que la trajectoire est un peu la même. Ils commencent tous les deux par faire des grands films, et puis ils en font un peu moins. Ils sacrifient au box-office, à la règle du box-office. L'un comme l'autre réessaye une fois ultime. Belmondo, ce sera Itinéraire d'un enfant gâté, son dernier grand succès en 88. Delon, ce sera un peu moins bon, ses Paroles de flic en 85, le dernier grand succès. Et puis ça s'arrête assez vite, au fond, assez tôt.
Parce que, déjà, de toute façon, les carrières s'arrêtent toujours trop vite.
C'est étonnant. Regardez Robert Redford, Paul Newman, ils ont tourné très très vieux.
C'est exact. Simplement, nous sommes l'écosystème du cinéma hollywoodien et plus riche au sens où il y a plus de monde.
Donc, Gabin a tourné très vieux aussi.
C'était une autre époque du cinéma français. C'est le seul à être resté grand du début à la fin. Ce serait beaucoup plus difficile aujourd'hui.
Pour Depardieu, vous voulez dire?
Ah, pour Depardieu, c'est fini. Je veux dire, le livre est refermé. Mais voyez, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, la carrière de Delon Belmondo commence la même année et elle se termine la même année. C'est-à-dire que je dirais que le dernier chef-d'œuvre d'Alain Delon, c'est Monsieur Klein, 1976. Le dernier bon film, le film acceptable de Jean-Paul Belmondo, c'est Le corps de mon ennemi d'Henri Verneuil, 1976. Bon, simplement, nous parlons d'un bon film, alors qu'avec nous parlons d'un des grands films de l'histoire du cinéma français. Donc, ils ont été confrontés au même phénomène, à savoir que les choses se sont arrêtées. Il y a une chose importante aussi, c'est que, vous voyez, Belmondo cherchait à rigoler. Chez Delon, c'est un autre drame, parce que chez Delon, nous sommes en permanence dans la tragédie. Delon s'est toujours projeté, en fait, dans une carrière effectuée sous l'égide de ses maîtres. Ses maîtres, c'était Luchino Visconti, donc Rocco et ses frères, Le Guépard, et Jean-Pierre Melville.
Et René Clément un peu. Joseph Losey aussi.
Et Joseph Losey un peu, mais c'était pas la même relation
de
maître à élève. Et vous voyez, dans la première moitié des années 70, eh bien, Visconti et Melville meurent, et Delon ne s'en remet pas, parce que c'est un très grand affectif. Donc soudain, il n'a plus ses pères, et il redevient ce fils perdu qu'il a été depuis quasiment la naissance, quoi. Voilà.
Merci Samuel Blumenfeld.
Merci beaucoup Frédéric.
C'est un livre passionnant. Delon Belmondo, c'est sorti aux éditions Équateur.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 9h avec un seul invité, ce sera François Sureau. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. Dans un instant, ce sera face à Philippe Devilliers, animé par Elliot Deval. Bonjour Elliot, quel est le programme ?
Bonjour cher Frédéric. Eh bien, dans face à Philippe Devilliers, nous allons revenir sur l'attaque au couteau à Bordeaux, actualité dramatique. Avec la marche blanche pour Chemseddine à Viry-Châtillon. On va parler de l'Europe à travers un traité et l'ouverture des frontières, le traité de Schengen. Et en fin d'émission, un retour dans l'histoire, un moment récent, puisque c'était il y a quasiment 5 ans jour pour jour, à savoir l'incendie de Notre-Dame de Paris. Voilà le programme de face à Philippe Devilliers, Frédéric.
Merci Elliot, bonne émission.
9h, 10h.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.